ce troisième volet qui s'intitule « Algérie, histoire à ne pas dire ». Mais votre aventure a commencé si bien plus tôt, bien sûr, et en 2003, vous finissez le premier volet « Un rêve algérien ». Je voudrais que vous me parliez un petit peu de cette aventure qui a commencé il y a pas mal de temps déjà.
Oui, c'est-à-dire que il s'avère maintenant que je dis que ce troisième film, Algérie, histoire à ne pas dire, fait partie d'une trilogie, mais je l'avais pas pensé comme ça au départ, parce que en fait, je pense que depuis mon arrivée en France en 1993, puisque je suis arrivé à cette date, comme pas mal d'intellectuels qui ont été menacés en Algérie par les islamistes. Depuis cette époque, mon travail a été surtout un travail de documentariste, alors que je pensais que j'étais plutôt un cinéaste de fiction. Quand j'étais en Algérie, j'avais fait de la fiction. Et en fait, j'ai fait à travers le documentaire, j'ai fait beaucoup de films pour revenir sur cette mémoire de la guerre, d'avant l'indépendance, et surtout pour parler de quelque chose qui me tient à cœur finalement, c'est le problème des relations multiethniques entre les trois communautés principales qui vivaient en Algérie, disons pour résumer, comme on dit, les pieds noirs, les juifs et les musulmans, comme on disait à l'époque. Et parce que en 1962, c'est la date de l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962, mais c'est aussi l'exode, le départ d'une population qui n'est pas rien quand même, qui c'est 1 million de personnes sur 10 millions. C'est pour ça que dans le film, je parle d'un des plus grands déplacements de population dans l'histoire de l'humanité. Donc ce problème de l'exode n'a jamais été une question taboue, je dirais, en Algérie et en France. Et moi, peu à peu, il m'a fallu un certain nombre de films. Élisabeth Vincent, une femme algérienne, l'Oasis de la Belle de Mai, un film sur Jean Pellegris, l'écrivain pied noir algérien pour moi. Tous ces films ont été pour moi des sortes de préparation pour aboutir finalement à ce dernier-là, Algérie, histoire de ne pas dire.
Alors je précise que vous êtes un cinéaste algérien, donc né en Algérie, qui a participé à tous les combats. Quand je dis à tous les combats, c'est-à-dire les combats progressistes, soyons clairs. La question que je pose, c'est que le premier film est diffusé en 2003, mais le travail que vous faites est en amont, bien entendu, vous venez de faire allusion à cela. Ça vous a pris quand même, pour cette trilogie, plus de 5 ans, donc. Avec une certaine douleur, je suppose, parce que ce que vous dites, ce sont un peu, on le dit très clairement, des gifles qu'on se prend, compte tenu des idées reçues que l'on a sur la guerre, sur l'actualité, et sur la façon dont on pense ces choses-là. Donc, dès 2003, bien avant 2003, vous commencez ce travail. Est-ce que vous avez conscience, à ce moment-là, de l'enjeu ?
Oui, j'ai conscience de cet enjeu, c'est-à-dire que, si vous voulez, je pense même que j'ai conscience de... Enfin, voilà, bon, c'est pour vous dire, en gros, en 1993, depuis plusieurs années, l'islamisme en Algérie est un mouvement qui monte et qui décide de prendre, de passer à la lutte armée et qui commence, dans ses premiers actes, de s'en prendre à tous les intellectuels. Bon. Et à ce moment-là, tous les amis me disent « il faut partir », et moi je résiste. Et ce n'est qu'après, bien plus tard, que j'ai compris pourquoi j'avais résisté. C'est un peu cette réponse que je vais trouver en faisant le film « Algérie, mes fantômes ». J'ai fait ce film d'ailleurs pour essayer de comprendre ça, justement, pourquoi j'avais eu peur de partir. Et je pense que j'avais eu peur de partir parce que, maintenant je le dis comme ça, si j'allais partir, évidemment j'allais partir en France parce que c'est le pays qui est à côté, c'est la langue, etc. etc. Et puis, mais en fait, là, j'allais me retrouver face à cette communauté qui était partie, et avec laquelle j'avais quasiment coupé tous les liens. Et c'était tous ces fantômes se retrouvaient là en France et j'allais devoir les affronter. Et à travers eux, j'allais devoir affronter toute une période de l'histoire que moi, avec tous ceux qui vivions en Algérie à cette époque, avions laissé tomber. On avait laissé dans le silence total, on l'avait enfoui complètement. Et donc c'est tout ce ressurgissement de cette histoire dont finalement j'avais peur parce que c'était énorme, ça me paraissait énorme. Et maintenant, quand je fais ce film Algérie, histoire à ne pas dire, c'est parce que vraiment chaque film que j'ai fait depuis 93 a été un petit pas vers ce film. Mais si vous voulez, on revient sur cet exode. Donc on revient sur la manière dont a été faite la guerre. On revient. La guerre. Maintenant, je comprends une chose, par exemple, à travers le film. C'est en faisant ce film que j'ai compris, à travers ce que m'ont dit les gens, puisque le film, c'est quoi ? Il faut dire deux mots du film. D'abord, je pense, le film, c'est en fait, l'idée du film, c'est de faire un grand voyage en Algérie pour interroger la mémoire des Algériens aujourd'hui, c'est-à-dire des Algériens arabo-berbéraux, berbéro-arabo-musulmans, sur ceux qui sont partis, c'est-à-dire sur l'absent. Les Juifs et les Pieds Noirs sont partis en 62. Qu'est-ce qui reste dans cette mémoire ? Voilà un peu le thème du film. Hein. Voilà. Mais après tout ce voyage que je fais en Algérie dans quatre régions, Skikda en 1950 pour parler de 55, Alger pour parler de la période dite de la bataille d'Alger, Constantine pour parler de Raymond, Cheikh Raymond, le chanteur juif de l'Andalou qui a été assassiné en 1961, et le dernier épisode à Oran pour évoquer le 5 juillet 1962. À travers tous ces voyages dans la mémoire des gens qui ont entre 60 et 80 ans, disons, sont eux qui ont la mémoire, eh bien, à travers tous ces voyages, j'en suis arrivé à la conclusion que, finalement, la guerre menée par le FLN n'a pas été seulement une guerre pour la guerre d'indépendance, pour mettre fin à un système colonial qui certes était bien sûr injuste et qu'il fallait mettre fin, mais aussi pour mettre fin aussi à la présence en Algérie des populations non musulmanes, c'est-à-dire de ce fameux million de juifs et de pieds noirs. Et ça, évidemment, c'est une conclusion qui moi-même m'attriste, mais je suis bien obligé de regarder les choses en face.
Alors, on va rentrer un petit peu. D'abord, une petite remarque. Dans le premier film, vous suivez des personnes qui sont en France, qui sont plus ou moins originaires d'Algérie, c'est-à-dire à des titres divers, jusqu'à un officier para, à qui vous arrivez à faire dire qu'il est lui aussi, en quelque sorte, immigré en France. Un officier para qui a été donc en Algérie, qui a vécu en Algérie, et qui en France se retrouve à Nice, hein, sur un banc, un petit peu immigré. Je voudrais faire une petite remarque d'abord là-dessus, parce que ça touche à peu près tout le monde, en fin de compte.
C'est-à-dire tout le monde, vous entendez qui tout le monde ?
C'est-à-dire cet exil en France n'épargne personne, ce n'est pas seulement des gens qui sont originaires d'Algérie, mais des gens qui ont participé à toutes les histoires, à l'histoire, à la libération, à la guerre qui s'est produite en Algérie.
Oui, c'est-à-dire que bon, c'était Algérie mes fantômes. Algérie mes fantômes, c'est un voyage en France où je rencontre par hasard, chaque fois au cours d'un voyage, quelqu'un qui a une histoire avec l'Algérie. Bon, c'était essentiellement donc des pieds noirs, des juifs. Il y avait des filles de harkis, il y avait des fils d'émigrés. Il y avait un journaliste qui avait quitté l'Algérie au moment parce qu'on lui avait tiré dessus, les islamistes lui avaient tiré dessus, etc. Toutes ces Algéries qui en fait nourrissent cet imaginaire algérien qui est très très fort et qui est sans doute le plus fort des imaginaire étranger, entre guillemets, en France. Beaucoup plus que l'imaginaire allemand, par exemple, qui pourtant, la France a fait l'Europe avec l'Allemagne et tout ça. Eh bien, là, effectivement, si vous voulez, moi, toutes ces interrogations et les films qui en sont les conclusions, si vous voulez, de ces interrogations, c'est en fait, ça vient de cette idée évidemment d'exil, parce que il a fallu effectivement que moi je sois en exil, que je quitte l'Algérie pour que tous ces problèmes se posent. Ils étaient enfouis en moi. C'est des questions taboues en Algérie. On peut pas parler de ces aspects d'avant la guerre. C'est des questions taboues en Algérie. Et donc c'était des choses complètement refoulées. Et moi je sais qu'un des déclics de tout mon travail, c'était un jour quand j'ai montré un film Un rêve algérien. Lisette Vincent, une femme algérienne, à Alès, en 96, je crois. Et une femme, moi je disais, voilà, je suis un cinéaste algérien exilé depuis 93. Elle s'est levée. Elle m'a dit, vous êtes exilé depuis 93. Moi, je suis exilé depuis 62. Quand j'ai eu ça, franchement, j'ai été bouleversé. Et là, je me suis dit, bon, alors, il faut revenir sur pas mal de choses, quoi.
Parce que vous-même, vous aviez des idées reçues, c'est-à-dire que vous étiez pour le nationalisme algérien. Vous avez été nourri au petit lait par cela.
Alors, oui et non, si vous voulez, parce que j'ai fait partie de la condition algérienne, donc j'ai depuis l'indépendance, le nationalisme s'est imposé à travers le FLN comme parti unique, il s'est imposé comme idéologie dominante. Bon, mais moi, à travers mon père, déjà qui était communiste, il y avait quand même une distance quand même. Hein, c'est-à-dire que mon père a toujours essayé de convaincre les autres Européens ou Juifs avec qui il parlait que l'indépendance de l'Algérie, ce serait une indépendance avec avec toutes les populations qui resteraient, avec les Juifs et les Pinois. Il disait toujours que l'Algérie serait multiethnique. C'était ça, en fait, son désir. Et malheureusement, ce désir n'a pu se réaliser. Et le film, en fait, est une interrogation. Pourquoi ça n'a pas pu se réaliser? Et j'ai aussi la distance aussi, parce que j'étais finalement, malgré tout, plus que minoritaire. J'ai fait un film avec l'Oasis de la Belle de Mai, d'ailleurs, le quartier de la Belle de Mai, avec ici même, dans la Friche, avec Denis Martinez, qui est un peintre d'origine espagnole qui a quitté l'Algérie comme moi, qui est algérien comme moi. Et à un moment donné, je pose le problème avec lui de l'identité. Bon, il dit qu'en Algérie, on avait même demandé à ce qu'il change de nom. Et il avait dit absolument pas. Mon père, mon arrière-grand-père, tout ça, sont nés en Algérie, je suis algérien et je vous emmerde. Il disait comme ça dans le film. Mais à un moment donné, il dit, quand je lui parle de minorité, il me dit, on n'est même pas une minorité. On est quelques particules. Mais on faisait partie quand même, on n'était pas ni arabe ni musulman. Et par conséquent, ça donne une distance quand même par rapport à ça. Mais le seul fait que nous soyons dans un régime de parti unique, où il n'y a pas la liberté d'expression, vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez vraiment. Et moi, de fait, si j'étais resté en Algérie, c'est clair que tous ces films, je n'aurais pas pu les faire.
Vous faites la démonstration dans votre dernier film, qui se passe, donc on le rappelle encore une fois, en Algérie, vous prenez quatre personnes, avec quatre événements dont certains sont énormes. Les conséquences vont être très lourdes, notamment les massacres de Philippeville. On peut peut-être en reparler. Il y a une chose qui est assez frappante, c'est que vous êtes du pays. Donc vous posez des questions. Et à ces questions, la plupart des personnes ont beaucoup de difficultés à répondre. J'entends les personnes, elles sont algériennes. Donc elles ont beaucoup de mal à avouer, notamment parce que le terme est employé par l'une d'entre elles, certains génocides.
Oui, c'est-à-dire que dans le film, on va voir que des Algériens entre 60 ans et 80 ans vont parler des actions qu'ils ont commis durant la guerre, en étant dans l'action révolutionnaire. Et ils vont nous expliquer que, par exemple, le 20 août 55, l'ordre qui a été donné aux combattants, c'était de tuer tous les gaouris, c'est-à-dire tous les non-musulmans, dans la rue, au faciès. Alors ça, évidemment, c'est que quand on vous dit ça, prenez ça en pleine gueule, c'est dur. Après, quand vous réfléchissez, que vous voyez que d'autres pour Alger vous disent oui, on aurait posé des bombes au milieu des civils, c'est-à-dire 40 ans après, encore on justifie cet acte, vous voyez que Raymond, il a été assassiné alors que c'était un homme de gauche, Raymond, qui n'était pas du tout opposé à l'idée d'indépendance, et qu'on assassine Raymond avec le but...
Chaque Raymond, hein, on rappelle.
Oui, voilà. On l'appelle Cheikh Raymond parce que c'était un maître de l'andalou, de la musique andalouse, de du Constantinois qu'on appelle Malouf, c'est qu'au lendemain de cet assassinat, tous les Juifs d'Algérie sont partis, ce qui était sans doute le but recherché, et que le 5 juillet 62, le jour même de l'indépendance, c'est-à-dire qu'au moment où il y a peut-être encore 200 000 Européens en Algérie, au moment où tous ces Européens qui sont partis en France et qui sont partis dans la panique, et qui aimeraient peut-être revenir parce qu'ils sont partis dans la panique, mais ils ont laissé leur maison, ils ont laissé leur boulot, eh bien, on fait le 5 juillet à Oran, c'est-à-dire un massacre qui dure de 11h du matin à 5h de l'après-midi, dans tous les quartiers d'Oran. On s'aperçoit que, finalement, la lutte, elle a été une lutte en même temps, disons, pour mettre fin à un système, c'est vrai, mais en même temps avec un autre objectif aussi, celui de faire partir les gens. D'ailleurs, il y a en 55, un des combattants, quand il est questionné à ce sujet, et il dit très très bien, les chefs nous ont dit que en tuant les femmes et les enfants, comme chez les Français, c'est les femmes qui commandent, les femmes, quand elles verront qu'est-ce qui s'est passé ici, elles diront à leur mari partout, dans toute l'Algérie, allez, on s'en va en France. Donc cette idée qu'il faut faire partir les gens vers la France, il ne faut pas qu'ils restent là, ça dénote que le mouvement de libération algérien, dirigé par le FLN, qui s'est comporté comme un parti unique déjà pendant la guerre, puisqu'il a imposé à tous les autres partis de disparaître, il a mené cette guerre au nom d'une logique qui est celle du nationalisme de tous les pays du monde, finalement. Parce que il faut bien avoir en vue aussi que ce nationalisme algérien, il fait partie d'un courant de ce qu'on appelle l'idéologie du nationalisme, qui, à mon avis, est pareil partout dans le monde. C'est-à-dire qu'elle obéit à un critère simple, c'est-à-dire que notre peuple, c'est uniquement ceux qui sont de telle religion. Notre peuple, c'est uniquement celui qui est de telle ethnie. Et donc, le nationalisme algérien n'a jamais pu avoir une réponse correcte par rapport au fait que, à partir de 1830, de 1840, à partir du moment où il y a une colonisation française en Algérie, il y a des gens, des immigrés qui sont venus de partout, de tout le bassin méditerranéen, des gens pauvres en général, parce que les gens qui quittent leur pays, c'est jamais des gens riches. Hein, ces gens-là ne quittent pas le pays. Il y a peut-être quelques aventuriers, mais ils sont quelques individus. Mais la majorité, c'est des gens pauvres. Donc, ils arrivent en Algérie, ils coupent tous les liens avec leur passé. C'est étonnant, mais tous les Italiens, Espagnols, etc., Maltais qui sont venus en Algérie ne sont plus retournés dans leur pays d'origine, etc. Et donc, leur patrie, ça va vraiment être l'Algérie.
Pour bien poser le problème, parce que certaines critiques ont été formulées, justement, par, évidemment, c'est très gênant ce que vous dites, et ça vous a gêné vous-même, vous venez de le dire. Je vais prendre une anecdote, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, avant cette émission. Je vous ai posé la question. En 45 et même en 54, c'est-à-dire 45, ce sont les massacres de Sétif, le 8 mai 45, au moment de la fin de la guerre. 54, c'est le début de la révolution algérienne. Et je vous pose la question, je vous dis, mais la préfecture de police d'Alger, donc qui est française, on rappelle, comment se fait-il qu'elle n'ait pas été au courant? Et vous me dites, mais elle a été très probablement au courant. Donc c'est cette espèce de jeu tragique, sanglant, qui se fait entre certaines personnes, qu'elles soient du côté algérien ou du côté français. Donc je voudrais que vous me disiez quelques mots là-dessus. Nous allons venir ensuite sur l'actualité.
Bon, dans le film, il y a le 20 août 55. On parle du 20 août 55 à Philippeville, Kigda, maintenant. Cette action qui devait se passer, qui a démarré à midi précisément dans toute la région de Philippeville, jusqu'à Constantine et tout, a eu, comme je l'ai dit, j'ai rencontré des tas de gens qui m'ont dit la même chose, a eu pour action principale qu'à midi, il y avait des montagnards qui avaient été mobilisés, et qui sont descendus sur les villes, sur les villages, et qui, encadrés par des hommes du FLN, avait pour mission de tuer le maximum d'Européens ou de Juifs, enfin de non-musulmans. Bon, ça c'est... Et cette action, évidemment, a été préparée pendant de longs mois, quand même, hein, pendant au moins un mois ou deux mois auparavant. On ne démarre pas une insurrection comme ça en quelques jours. Et bien sûr, les autorités françaises, je pense, le savaient, les autorités militaires et les autorités policières. Ils ont leurs informateurs, ils ont leurs infiltrateurs, si vous voulez, et ils savaient, à mon avis, tout ce qui allait se passer, et ils ont laissé faire. Il leur fallait, à l'armée française aussi, il fallait qu'il y ait des morts européens. Et la preuve, c'est que là, dans le village qu'on montre dans le film, El Alia, le village minier, il y a une caserne qui se trouve vraiment à 5 minutes. On est passé devant. Du village, et ils ont intervenu, ils sont arrivés 3 heures après. C'est comme s'il fallait qu'ils donnent le temps, qu'il y ait suffisamment d'Européens qui soient assassinés. Il y en a eu, je crois, ce jour-là, environ une centaine dans tout le Philippevillois, disons. Il leur fallait cela pour qu'ensuite l'armée française vienne et puisse se permettre de faire une répression massive en grand, avec plusieurs milliers de personnes qui ont été assassinées à ce moment-là. Et toujours de la même manière, c'est-à-dire l'armée française vient tuer sur une base ethnique, c'est-à-dire elle tue de l'arabe dès qu'elle voit un type. Et justement, ceux qui restent dans les villes qui vont être tués, ce sont les gens qui n'ont pas participé à l'insurrection et qui se considéraient donc comme innocents. Et ce sont eux qu'on assassine, parce que les gens qui ont mené l'insurrection, eux, se sont sauvés avec leur famille, dans les familles. Et la preuve qu'ils sont restés vivants, c'est qu'ils étaient devant ma caméra.
Oui, puisqu'ils le disent, ils se retirent ensuite dans les montagnes. Alors c'est très grave, parce qu'en 55, ça fait... Mais c'est vrai pour 45, 54, ça fait absolument basculer le cours de la guerre. Soustelle, qui venait d'être nommé en Algérie, change complètement, il change son fusil d'épaule, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça a des conséquences très lourdes, comme si des deux côtés, on veut changer une situation, rendre quelque chose un petit peu d'irréversible.
Oui, moi, ça me fait dire, franchement, ça peut-être ça va gêner des gens, mais moi, je pense qu'il y a, de fait une sorte de complicité objective, je dirais. Je ne dis pas qu'il y a une complicité directe, mais objective, c'est sûr. Parce que la France, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin qu'on tue des Européens pour dire, nous, on reste en Algérie pour protéger la population européenne. Elle va pas dire qu'on est là pour les intérêts pétroliers, parce qu'on sait qu'en Algérie, il y a du pétrole déjà depuis les années 40. Elle va dire, on est là pour protéger la population européenne de ces méchants arabes. Et puis, du côté FLN, l'ordre d'insurrection a été donné, on a fait éclater quelques bombes en 1954, la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Et puis, il n'y a presque plus rien eu après. Et donc, il faut faire démarrer l'insurrection, il faut être visible. Et donc, la FLN de cette région, de Skida, va décider de cette action. Alors, cette action, elle vise à quoi? Elle vise à tuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des Européens au faciès. Et de cette manière, on sait qu'il va y avoir une répression, bien sûr. On sait que l'armée française, ça, les dirigeants de cette insurrection l'ont quasiment dit. Qu'ils savent qu'il va y avoir une répression, parce qu'il y a déjà l'exemple de 45. Ils savent qu'il va y avoir une grosse répression, on va tuer des milliers de gens, c'est déjà prévu, c'est dans les calculs. Et que ensuite toutes les familles algériennes arabes auraient un type, qui aurait un fils ou un frère ou un père qui aurait été tué, et par conséquent, ça engagerait des tas de gens à rentrer, à rejoindre la FLN par esprit de vengeance, par esprit, etc. Voilà. Bon, et d'une certaine manière, donc, on n'a pas envie de part et d'autre que se renforcent les liens entre les communautés. Et si vous voulez, tout mon film, en fait, la dramaturgie, pour parler un peu cinéma, la dramaturgie, on pourrait dire que c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, les relations entre les différentes communautés, entre les individus de ces communautés, je ne dis pas que toutes les communautés sont devenues sœurs comme ça, non, mais il y avait de plus en plus de liens qui se tissaient entre des gens de différentes communautés, entre les juifs, les musulmans, les européens, de différentes manières, au boulot, dans le quartier, dans les partis politiques, les syndicats, etc. Tout ça avant 54, parce qu'après, évidemment, les partis vont être interdits. Et on avait envie, en fait, je pense que de part et d'autre, c'était un mouvement qui gênait. Ça gênait la France coloniale, parce qu'imaginez que les Juifs, les Musulmans et les Européens se mettent d'accord ensemble, ça ne justifiait plus l'armée française.
C'est-à-dire que les deux mythologies n'acceptent pas.
Absolument. Absolument. Et ça gênait évidemment de l'autre côté aussi le nationalisme, parce que le nationalisme a postulé, sans le dire vraiment, que l'Algérie, elle avait été arabo-musulmane avant la colonisation française et qu'elle devait le redevenir après.
C'est pas seulement le problème de l'autre, c'est le problème du même qui est en train de se poser. Chacun avec sa propre, il veut affirmer une identité.
Voilà. Et puis, du côté du nationalisme algérien, je pense qu'il y a une chose qu'ils n'ont pas voulu, tenir compte, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces immigrés pieds noirs, qu'on a appelés pieds noirs, enfin, ces immigrés italiens, espagnols, etc., ces gens pauvres qui sont venus vers l'Algérie, bon, c'est vrai, du temps de la colonisation française, mais c'est pas leur faute. On ne peut pas leur reprocher à eux la colonisation qui a été décidée à Paris au 19e siècle, en 1830. Ces gens qui vont arriver vont rester, ils vont faire des enfants, il y a plusieurs générations qui vont s'implanter. Est-ce que ces gens-là, ils sont algériens ou pas? Qu'est-ce que c'est l'algérianité? C'est une question très actuelle. Mon film, de cette manière, n'est pas simplement un film pour l'Algérie ou pour la France seulement. C'est un problème universel. Aujourd'hui, il y a des mouvements de population, des mouvements migratoires qui sont de plus en plus forts. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, il faut dire à tous ces gens qui sont arrivés depuis une génération ou deux, vous n'êtes pas français? Il y a des gens qui l'ont dit ça en France. Il y a des gens qui l'ont dit. Mais ceux-là, on les appelle quasiment des gens d'extrême droite.
Oui, mais de toute façon, votre film éclaire aussi la situation en France concernant l'immigration. Alors, sans en parler, je voudrais venir sur un point. Là, c'est que depuis un an, les attentats ont repris en Algérie. Ça éclaire d'une lumière crue et cruelle votre propos. C'est-à-dire que on pensait que les attentats étaient terminés, le terrorisme était terminé en Algérie, puisqu'il y avait une alliance, on va pas rentrer dans le détail, entre le gouvernement et certains islamistes, mais il y a aussi une réalité, c'est que tout ça vole en éclats. C'est une leçon terrible qui est en train de se passer, car en Algérie, on est atterré par ces attentats. Ça reprend encore.
Oui, c'est-à-dire que... Je pense que c'est très compliqué, bien sûr, mais il y a aujourd'hui la situation, elle est toujours. On a un système, disons, qui s'est mis en place depuis l'indépendance. Bon, la guerre a été faite donc par les militaires. Les militaires, après l'indépendance, ils ont dit on a fait la guerre, donc on garde le pouvoir. Bon, ils avaient une légitimité parce qu'ils avaient fait la guerre, donc ça a été plus ou moins accepté. Mais au fur et à mesure et de moins en moins, cette légitimité a été acceptée par le peuple. De moins en moins de gens vont aux urnes. Donc il n'y a jamais eu vraiment de légitimité populaire. Et maintenant, ça commence à peser. Bon. En plus, il y a un phénomène de corruption assez important, parce qu'il y a une affaire qu'on appelait l'affaire Khalifa en Algérie. C'est quelqu'un qui a fait une banque avec de l'argent d'une manière ou d'une autre, et finalement, ils l'ont ensuite mis au pilori parce qu'il a voulu faire une chaîne de télé, que ça dérangeait certains. Bon. Et du coup, on s'est aperçu, quand ils ont mis son affaire en justice, quasiment tout le type du pouvoir, et même de la presse, dite indépendante, avait trempé, avait été arrosée par Khalifa. Alors, bon, c'est un système qui, à mon avis, arrive à la fin. Il faut passer à autre chose. Bon, l'idéal, évidemment, serait qu'on passe vers un système démocratique. Mais sauf qu'on ne passe pas à la démocratie comme ça, lorsqu'on n'est pas prêt encore, peut-être, j'en sais rien. Et que la seule force politique pour qu'il y ait une direction vers la démocratie, il faudrait que les démocrates qui existent en Algérie soient suffisamment forts et organisés politiquement pour imposer cette voie, hein, pour, disons, s'imposer. Or, le seul mouvement aujourd'hui qui est vraiment bien organisé et qui est là en attente, etc., et malgré le fait que les gens n'ont pas accepté finalement qu'il emploie la méthode terroriste et la voie des assassinats, c'est le mouvement islamiste qui est toujours là et qui, s'il y avait des élections effectivement démocratiques, prendrait, je pense, facilement le pouvoir. Alors, on est dans une situation, je ne sais pas comment. Alors, bon, comment ça va se dérouler à l'avenir, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ce système actuel, il est en fin de course, et que comme il est à la menace des islamistes qui sont toujours là, il utilise le nationalisme à mort. Et c'est pour ça que maintenant, il y a un regain de nationalisme terrible en Algérie. Le pouvoir, par exemple, a quasiment interdit mon film.
J'allais vous poser la question. Vous n'avez pas pu diffuser pratiquement votre film en Algérie.
Non, il a été interdit de projection à plusieurs reprises. Et ils sont en train de préparer l'interdiction officielle du film. Et comme ils n'osent pas la prendre, cette décision, ils sont en train de montrer le film à des anciens combattants pour que les anciens combattants disent que ce film n'est pas dans la ligne et qu'à partir de là, on pourrait avoir, la liberté, disons, de l'interdire, que cette décision ne viendrait pas du pouvoir, mais de la société dite civile, quoi.
C'est un refus de l'histoire et de sa propre mémoire.
Oui, mais toute l'histoire de l'Algérie contemporaine est une histoire trafiquée, c'est une histoire... vous savez, quand Boudiaf, par exemple, on a été le chercher pour lui demander de venir assurer le pouvoir parce qu'il avait une légitimité à lui tout seul, quand on a interrompu les élections en 1991 et qu'il est arrivé donc début 92, personne, il y avait 300 personnes à l'aéroport, personne ne le connaissait.
Oui. Jean-Pierre Ledoux, malheureusement, on va en rester là. Je voudrais qu'on rappelle un petit peu les dates de diffusion de votre dernier film dans la région.
Je ne sais pas si l'émission passe aujourd'hui, mais ce soir à 19h, le film passe au cinéma Méliès à Port-Debout. C'est pas très loin de... Donc, je crois qu'il y a même la municipalité de Marseille qui organise des voyages spéciaux sur Port-Debout. Ensuite, il passe après à Château-Arnoux, il passe à Briançon, il passe à Béziers le 3 avril, le 4 avril il passe à Biarritz, si la radio Grenouille arrive jusque-là, et le 5 à Mont-de-Marsan, ça c'est pour la tournée du Sud, et puis après il y aura d'autres.
Est-ce qu'on a une petite indication, je crois que l'Alhambra, sur le site de l'Alhambra, on a toutes les dates.
Vous avez mieux, vous avez le site du film, Algérie, histoire à ne pas dire, histoire avec un S, toutcollé.com, et là vous avez non seulement toutes les dates de circulation du film, des débats, tout ça, mais vous avez en plus les débats eux-mêmes que nous avons eus jusqu'à présent, qui au fur et à mesure vont être mis en ligne, et vous avez par exemple l'historien algérien Mohamed Harbi qui est venu animer un débat avec nous et qui peut être entendu sur le site, et il donne son point de vue sur le film, qu'il défend d'ailleurs, qu'il tient à défendre. Voilà.
Je vous remercie infiniment. Bonsoir.
Bonsoir.